Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm.
Agite tes côtés. Paca. Pleurez comme on traverse.
C'est le moment à corps au corps. Bienvenue aux auditoristes de Cause Commune. On a le plaisir d'être en présence de deux personnes, deux femmes exceptionnelles aujourd'hui. Bonjour et merci Claire Egan.
Bonjour.
Merci Elsa Markel-Liénard. Vous avez un lien fort, très fort, même toutes les deux. Vous êtes mère et fille, toutes deux. Et en même temps, sur ce plateau sont réunies même trois générations. Mais on ne dira pas pourquoi. Vous êtes toutes les deux artistes pluridisciplinaires. Artiste total, ça te convient Claire, artiste total?
Bah, on n'arrive jamais à avoir tout.
Non, mais dans la pluridisciplinarité, c'est-à-dire oui. Que tout peut faire, tout est matière et objet et peut être utile et utilisé.
On peut dire.
Mime, danseuse, chorégraphe, metteur en scène, scénographe, actrice, musicienne, instrumentiste. Ça, c'était pour essayer d'égrener tout ce que vous pouvez et savez faire ensemble. Vous êtes aussi formatrice, pédagogue, toutes les deux, des pédagogues exceptionnels, des maîtresses dans vos arts et la façon de le transmettre, d'en donner les clés, d'ouvrir les portes et les porter, je dis ça pour la musique, mais pas seulement, parce que pendant très longtemps, le théâtre du mouvement a travaillé sur les portées, n'est-ce pas ?
Oui.
Créer de la musicalité, créer du contact, du pensée, du mouvement, du rythme, du son, des images. Ah, mais j'oubliais, vous êtes aussi toutes les deux marionnettistes, évidemment. Et puis clown aussi, certainement.
Oui.
Oui, j'ai même dit irrémédiablement. Claire, quand tu es sur scène, tu crées avec ton public ce surcroît, celui dont parlait Monsieur de Croux. Alors, je l'appelle Monsieur de Croux parce qu'il y a des gens qui l'appellent Monsieur de Croux, mais je ne m'aperçois pas toi. Il y avait un peu un code d'appeler Étienne de Croux, Monsieur de Croux.
Ah, ben non. Oui, non. C'est vrai.
Mais
c'est... Moi, c'était Étienne de Croux. Même Étienne, même parfois.
Étienne, oui. Vous étiez intime et proche.
Oui.
Tu racontes dans le livre sur le théâtre du mouvement qu'il citait souvent cette phrase biblique « Et le reste vous sera donné par surcroît ». Et c'est vrai que quand tu es en scène, il y a comme un vide, un silence, ou un possible, ou un creux, ou une vague, ou quelque chose en devenir, un tissage invisible que tu soulignes, un quelque chose, une suspension, un surcroît qui agit dès que tu joues et dès que ça joue. Alors, comment ça marche? Je crois que c'est la question que le théâtre du mouvement s'est posée.
Comment ça marche?
Ouais, tout le temps.
Ben, moi, c'est ce que je me suis toujours posé. Même quand j'étais petite fille, je voulais toujours savoir comment ça marche. J'avais un cousin qui avait un jeu où on pouvait monter avec des pièces métalliques, des petits écrous, des boulons, des trucs comme ça. Et on pouvait fabriquer des trucs avec. Et moi, je voulais savoir comment ça marche. Et de même que quand mon père... faisait de la photo, il développait ses photos dans dans le laboratoire, dans la salle de bain, il me montrait comment ça marchait, c'est-à-dire comment, déjà la prise de vue, mais surtout comment on projetait l'image, le négatif sur du papier sensible, et puis comment à partir du papier sensible, on mettait ce papier qui avait été donc exposé, comment on mettait dans le révélateur, et puis que l'image apparaissait dans le révélateur, et puis après, au bout d'un certain temps qui était assez précis au niveau du minutage, on le sortait du révélateur pour le rincer et pour le mettre dans du fixateur, etc., etc., etc. Donc tout un processus, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça marche. Et quand j'ai travaillé sur la marche, je me dis comment ça marche la marche, mais je me pose la question tout le temps de comment ça marche, pourquoi ça marche pas. Ah, est-ce que c'est à cause de ci ou à cause de ça? Non. Comment ça marche? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va qui fait que ça fonctionne? Voilà. C'est ce que j'ai vécu.
Parce que je trouve ce texte magnifique et j'avais prévu de demander à Elsa de le lire. Mais on peut peut-être le faire quand même, tu vois. Et puis.
Je pense que c'est d'abord mon entourage familial qui a créé mon intérêt pour les arts. J'ai vécu entourée d'artistes, en particulier de musiciens, ainsi que d'œuvres d'art, sculptures et peintures provenant de mes ancêtres. Mes parents étaient aussi des créatifs. Je me souviens avoir passé des heures auprès de mon père dans la salle de bain transformée en labo photo. Je le voyais effectuer des opérations mystérieuses et magiques tel un prestidigitateur. J'étais plongée dans l'obscurité trouée d'une seule petite lampe rouge, fascinée par tout le processus d'apparition d'une image, jusqu'au moment de tenir la photographie finale dans mes mains d'enfant. J'avais l'impression de participer au mystère de la création. C'était une leçon de choses qui me permettait d'accéder à une explication secrète et précieuse du monde. Par la matérialité des opérations, je comprenais quelque chose de l'au-delà ou de l'en-deçà des mots. Cadre, mise au point, déclencheur, prise de vue, développement de la pellicule, négatif, en constitue la première étape. Venait ensuite l'exposition du négatif sur le papier sensible, selon un minutage précis. Puis, me captivait l'apparition magique de l'image en positif après passage du papier dans le bain du révélateur. Les opérations suivantes confirmaient l'image révélée et sa finalisation. Bain du fixateur, rinçage, glaçage ou non, séchage, découpage de l'image finale au bord dentelé. Tous ces mots merveilleux m'ouvraient des champs imaginaires et des profondeurs de sens. J'avais alors la révélation, au sens propre et au sens figuré, de l'image et de sa fabrication. Celle que l'on sélectionne pour la postérité et qui est faite pour durer, ou celle qui finit à la poubelle. J'ai donc toujours porté attention à ce qui fait image, qu'elle soit fixe ou image mouvement. L'expectative de son émergence ou de sa disparition m'a tenue en haleine. J'ai affûté mon regard en attendant avec impatience l'instantané définitif ou le fugitif du geste survenu qui échappe en se révélant. La construction de l'image, son élaboration patiente, les mots même, m'ont initié à une dramaturgie du processus et enseigné, sans que je le sache, la complexité des étapes de la création et de la composition.
Merci Elsa. Avant de vous demander à chacune justement quelles ont été vos formations, vos influences et peut-être les pratiques somatiques dont vous auriez envie de parler, est-ce qu'il y a quelque chose de ton enfance que tu as envie de raconter ou qui fait lien? Bon, tu es née dans le chaudron du théâtre du mouvement, puisque tu es la fille de Claire Egen et de Yves Marc. Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, peut-être qui n'a rien à voir avec le théâtre du mouvement? Comment t'as trouvé la flûte?
Complètement par hasard. J'ai commencé par le violon et puis finalement je voulais faire du piano, puis il n'y avait pas de place, alors on m'a mis dans une classe de flûte.
D'accord. Ok.
Donc complètement par hasard. Peut-être dans les anecdotes, mais qui sont reliées au théâtre du mouvement, quelque part, ou comment ce chaudron a fonctionné. Par exemple, il me faisait travailler les translations de tête en me brossant les dents.
D'accord.
Donc, faisait translation à droite, translation à gauche pour me brosser les dents plutôt que de se brosser les dents d'une manière normale. Ou alors, j'ai des souvenirs sur la plage, de travailler l'ondulation avec juste les doigts de mon père ou de ma mère qui remontaient le long de ma colonne vertèbre par vertèbre pour me faire repousser les doigts avec toute ma colonne et comprendre les principes de l'ondulation. Donc il y a des choses qui, voilà, qui sont rentrées dans mon corps...
très petite.
Très petite et qui étaient là, qui ont toujours, quelque part, qui ont toujours été là, que j'ai pas dû, entre guillemets, apprendre par la suite parce qu'elles étaient déjà intégrées.
En tout cas, c'est une certaine sagesse du corps qui passe par justement se demander comment ça fonctionne.
Oui, là, c'était. Enfin, quand on est enfant, c'est plus de l'ordre du ressenti, on n'est pas encore dans le comment ça marche, on absorbe tout. Mais après, effectivement. Enfin, pour ma part, je suis quelqu'un aussi de très analytique. Et ce côté de comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est que ce soit sur tous les sujets qui m'intéressent, d'aller chercher, d'aller creuser, toujours dans l'analytique, quoi, de comment ça marche.
En même temps, de l'organique, en fait. C'est pas juste du pur esprit. Ça s'appuie sur l'organique.
Oui, où ça y revient après, toujours revenir effectivement. Tu parlais d'essentiel tout à l'heure, mais aussi revenir à l'essence, comme une diminution, une réduction en cuisine, quoi. Mais pouvoir justement passer par cette décomposition et cette analyse pour pouvoir mieux y retourner en sachant ce qu'on fait, en fait, plutôt que de faire sans savoir. Et
on retrouve la phrase de Feldenkrais qui dit: savoir ce qu'on fait pour pouvoir faire ce qu'on veut.
Ouais.
C'est ça.
Donc, pour faire ce qu'on veut, c'est aller plus loin.
Non, c'est le faire en conscience.
C'est ça.
C'est pouvoir avoir le choix.
Oui.
C'est que si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, en fait, on n'a pas le choix.
Et être conscient de ce qu'on fait, c'est mettre des mots dessus, nommer les choses.
Oui, ça peut, oui.
Voire inventer des mots si les mots n'existent pas encore.
Ouais. C'est utiliser des terminologies qui existent déjà.
Tu dis donc que c'est analytique, mais que tu travailles beaucoup avec l'analyse. La musique, c'est quand même sensoriel avant tout, mais peut-être que je me trompe.
Pour moi, c'est vraiment les deux.
D'accord.
Il y a ce côté très mathématique, très analytique. Quand on apprend après l'analyse, l'écriture, l'harmonie, c'est comme des maths. Pour moi, j'ai adoré ça parce que c'était comme des exercices de maths et j'aimais beaucoup les maths.
D'accord.
Et bien sûr, c'est du ressenti, c'est de l'émotion. J'ai envie de dire, même le risque, c'est de séparer les deux. Si on est que dans de l'émotion, peut-être qu'il y a des choses qu'on va pas comprendre. Et si on est que dans le mathématique, on risque de ne pas relié à ce qu'on est, nous, êtres humains, avec nos émotions, avec nos pensées, avec nos... Et j'ai même découvert assez tard, en fait, que... par exemple, comme j'aimais beaucoup les mathématiques, j'ai appris, justement, l'harmonie, l'écriture, l'analyse. De cette manière, mathématique, c'était des codes, c'était des règles, c'était des... pour composer comme tel ou tel compositeur, c'était des règles à appliquer.
Des contraintes qui s'étaient données, par exemple.
Oui, ou qui étaient les codes de composition de l'époque. De passer de tel degré à tel degré, comment passer d'une tonalité à l'autre, comment des codes de composition, en fait, selon les époques, selon les compositeurs. Et j'ai appris assez tard, en fait, à reconstituer tous ces codes de manière émotionnelle ou en couleur ou en quelque chose de plus sensible et sensitif, en fait. Et ça m'a pris, je crois que j'ai eu une révélation vers 25 ans. Et pourtant, j'étais quelqu'un quand je jouais, j'étais très musicale, très dans l'émotion, etc. Mais j'avais complètement coupé cette partie analytique aussi. Donc, pour moi, la musique, c'est vraiment les deux. Et si on peut coupler et faire dialoguer les deux le plus tôt possible, c'est mieux.
Mais ça veut dire, parce que ça, je crois que ça fait partie de ce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre du travail que proposait Claire. C'est-à-dire d'être dans une très grande rigueur des compositions et de travailler vraiment dans la décomposition des articulés à la barre, quoi, presque à la barre. Et que cette rigueur, et on le voit très bien dans quand Claire est sur scène, hein, est une maîtrise totale d'une structure qui assure une distance et qui, justement, au moment où on dégoupille la grenade, toutes ces racines, ces choses sûres, certaines, claires, laissent déborder d'autant plus l'émotion, en fait.
J'ai l'impression que c'est la même chose, effectivement, si on fait ça de manière mécanique ou théorique ou comme des exercices stupides qu'on applique, ça donnerait un résultat aride, mais qu'il faut... mais si on l'associe avec le sensible, c'est là que... Ben, que ça va faire boum.
Moi, j'ai tendance à dire... L'acteur, il doit dealer, il doit faire des transactions permanentes, le sensible et la raison. C'est un va-et-vient permanent entre le sensible et la raison. Et l'acteur, ou le musicien, en fait, il a une partition gestuelle, au même titre qu'une partition musicale, et il va l'interpréter. Alors, d'un soir à l'autre, ce ne sera pas forcément la même chose. Mais il sait que la partition gestuelle, elle est précise, elle est au croisement, par exemple, de plusieurs grammaires. C'est important pour moi de nommer, par exemple, dans le corps où ça se situe. Est-ce que c'est l'articulation de la hanche, d'où part le mouvement, dans quelle direction il va, à travers le corps, dans l'espace, quelle orientation du corps. Voilà. Pour moi, l'anatomie, c'est vraiment important de dire ça se situe à tel endroit. Est-ce que c'est la septième cervicale? Est-ce que c'est la crête iliaque? Est-ce que c'est l'épine iliaque antérieure et supérieure? Est-ce que c'est le creux poplité, etc. Je nomme dans le corps les endroits. D'ailleurs, Ducroux était très, très anatomique. Dans ce sens-là, il se disait ossiste, de os. Voilà. C'est un système os de Croux, un système articulaire. Donc il y a le croisement de ça, et puis le corps, il est symbolique, les parties de corps, elles sont symboliques. Quand on met en jeu une épaule, c'est pas la même chose que si on met en jeu un bassin, ou un pubis, ou un talon. Voilà, donc ça renvoie de manière consciente ou inconsciente à de la symbolique propre à notre culture ou à d'autres cultures. Voilà. Et puis c'est le croisement avec parce que ce qui est de l'ordre de, effectivement, du temps, de la durée, du rythme, de la musicalité, de l'espace, etc. Donc qu'est-ce qui bouge à quel endroit, pendant combien de temps, etc. Et en jouant, c'est comme le corps de Croux, il parle d'un le corps comme un clavier. Voilà, ben, c'est des touches. Et puis on va faire de la musique avec ces touches-là, quoi. Et là, le sensible, il est là. C'est-à-dire que c'est clair que si je bouge une épaule, la manière, le fait de bouger l'épaule, moi, ça me renvoie déjà à quelque chose. Si je fixe un regard et que je bouge ma tête autour d'un regard fixe, eh ben, ça m'amène des états de pensée, des états émotionnels. Donc c'est très simple, hein, en fait. C'est très simple. Simplement, après, c'est quand on veut composer, et qu'on a eu ces expériences-là en improvisation, on doit pouvoir être capable de reprendre. Si je fais un droite-droite arrière de tête, quelqu'un qui ne connaît pas le travail du coup, il ne saura pas ce que ça veut dire. Ça veut dire une rotation droite de tête, à laquelle on va ajouter une inclinaison latérale de droite, et puis après une inclinaison arrière, et ben ça va me mettre ma tête dans un certain état. Voilà. Et le spectateur, lui, peut projeter ce qu'il veut là-dessus. Moi, je sais que quand je fais ça, ça me renvoie à un univers. Un univers mental, un univers... voilà. Mais je sais qu'en refaisant chaque fois cet endroit-là, je provoquerai toujours le même type d'état de corps et le même type d'interprétation pour le spectateur en face.
Alors, ça me fait penser à deux choses. J'ai deux questions qui émergent de ça. Est-ce que Ducroux notait le mouvement, enfin, c'est-à-dire comme Laban a noté la danse? Est-ce que... Dans l'inventaire animé, par exemple, dont tu dis que réellement tu peux reproduire un geste et ou un morceau de répertoire parce que tu sais exactement le chemin pour aller. Enfin, tu peux noter exactement avec les trois plans, non, l'inclinaison, etc. Donc, est-ce que ça, on peut parler d'une notation de mouvement, en fait, possible, soit par les mots, soit par des dessins, peut-être, je sais pas, ou des signes, des glyphes qui auraient qui noteraient ça.
Ça, je sais pas, j'ai pas eu accès. Je sais qu'il écrivait beaucoup.
Toi, tu le fais pour toi, en fait, pour aller.
Bah, c'est-à-dire que un droit de droite arrière ou un droit de gauche avant, etc., pour moi c'est très clair, et quand je parle avec mes acteurs, ils savent très bien ce que je veux dire. J'ai pas besoin de parler j'ai pas besoin de dire bon bah là à ce moment là t'es triste. Moi j'ai dit tu me fais un droit de gauche avant, et l'acteur il comprend que c'est ça, et puis il va faire sa cuisine avec ça, si tu veux. Voilà. C'est une terminologie, si tu veux, tu vois.
C'est pour ça qu'Elsa, tu lui disais, va faire une translation et elle allait se laver les dents, en fait.
Pour me souvenir que c'est une translation de tête
à brosse à dents fixe.
À brosse à dents fixe. Il faut que la brosse à dents soit fixe pour pouvoir se brosser les dents droite gauche en translation. Sinon, si on bouge tout en même temps, ça ne nettoie pas les dents.
C'est ça. Parce que l'art du mime, c'est quand même le point fixe.
Alors.
Qui le rapproche de la marionnette, d'ailleurs, en fait. Parce que marionnette.
Alors, ouais. Alors, moi, j'utilise pas le mot point fixe.
D'accord.
J'utilise le mot fixation. Parce que la fixation, c'est un mouvement en train de se faire.
Ok.
C'est un mouvement où il y a deux entités. Une qui veut s'écarter et l'autre qui ne veut pas s'écarter, qui ne veut pas bouger. Donc, c'est pas simplement ne pas bouger, c'est vouloir ne pas bouger. Et donc à ce moment-là, comme il y a deux intentions qui s'annulent, le spectateur a conscience des deux entités. Voilà.
Ça, c'est très beau pour moi, parce que ça enfin, ça me questionne aussi beaucoup, et dans le spectacle Inventaire animé, vous le mettez en jeu dans les corps, dans l'espace, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'opposé, l'inverse d'une action, il y a toujours son contraire, on est toujours dans les polarités. Mais finalement, c'est pas binaire, justement, puisque si on a conscience de ces oppositions, on peut en jouer.
Oui, tout à fait. Oui. Alors après, il y a ce qui est de l'ordre de la contradiction, il y a ce qui est de l'ordre de la progressivité ou de la dégressivité, ou même d'un rétabli, on revient dans l'axe du corps, et c'est comme un repos, une respiration pour pouvoir à nouveau inscrire quelque chose qui va nous sortir de nos axes et de nos appuis, et où on va créer du drame, on va créer à nouveau de la contradiction, de la fixation, tout ça. Mais j'insiste, la fixation, je fais... quand je travaille avec les marionnettistes, je leur dis non, c'est pas point fixe. Ça veut rien dire point fixe. Qu'est-ce qu'on fixe ? Est-ce qu'on fixe un objet dans l'espace ? Est-ce qu'on fixe un axe ? Est-ce qu'on fixe un espace lui-même ? Est-ce qu'on fixe une relation ? Voilà. Et on peut fixer plein de choses. Le point fixe, ça ne veut rien dire. Alors évidemment, si on sait très bien que pour les mimes, quand on voit le marceau avec la cage, ou quand on voit où les marionnettes sont toujours en train d'attention ton point fixe, on sait très bien à quoi on fait allusion. Mais c'est que quelque part, il n'y a pas le vouloir ne pas bouger à l'intérieur. Voilà. C'est une partition d'intensité dans le corps. C'est pas juste je fais le mouvement, c'est le mouvement avec de l'opposé à l'intérieur. On fait bouger à la fois les muscles agonistes et antagonistes. Donc dans la vie de tous les jours, ça nous arrive d'être dans ces états-là où on a... Et puis, ça demande soupir, ça demande repos pour pouvoir à nouveau reprendre.
Tu peux donner un exemple précis ? À quoi tu penses quand tu dis dans la vie de tous les jours, par exemple ?
Eh bien, t'as un exemple, Elsa ? je sais pas, moi, par exemple, quand tu prends un pot à eau, bien plein, tu sens bien qu'il y a un poids. Voilà. S'il n'y a plus le poids, et que tu veux donner l'illusion de ce poids, tu es bien obligé à la fois de faire le mouvement que tu faisais avec le pot pour le lever, par exemple, mais tu es obligé de créer l'inverse, l'opposé à l'intérieur du muscle pour donner la sensation du poids. Donc De Croix, il parlait des muscles croisés. Les muscles croisés. Donc, celui qui veut et celui qui ne veut pas à la fois dedans. Donc si je fais ça, ça va créer l'illusion d'un poids. Ou même simplement si je déplace ma main lentement de droite à gauche, par exemple, je balaye l'espace devant moi sans force. Et puis je peux le faire à la même vitesse, mais avec beaucoup de résistance à l'intérieur. Donc là, je joue toujours sur la musicalité. Si je fais waouh, 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 voilà, ça fait waouh, waouh, waouh dans mon corps et dans mes muscles, tu vois, voilà. Et c'est ça qui va donner les nuances, qui va donner les couleurs.
Donc bouger, c'est penser. Pardon, les
artistes. Non, ou si on fait des immobilités, par exemple, on a. Je sais pas, on doit aller faire quelque chose, puis d'un seul coup il y a une idée qui nous arrête et on veut partir dans l'autre sens, puis on repart dans l'autre sens. Bon, ça arrive pas tous les jours non plus, mais quand il y a une suspension de pensée ou quelque chose, c'est, cette immobilité elle est créée aussi par par ces muscles antagonistes et cette volonté de je veux y aller, mais en même temps il y a quelque chose qui m'arrête. Du coup, ça bosse dans les deux sens. Un genre d'exemple.
Dans tous les jours, on fait ça. On est en train de faire. On est en train de tourner la crème. À un moment donné, on se dit « Ah, on va les prendre dans le placard. J'ai oublié de mettre du sucre ou je sais pas quoi. » Et on va remettre. Ou on sort de chez soi, puis on se dit « Est-ce que j'ai bien fermé ma porte à clé ?» Voilà, tout simplement. Et imperceptiblement, toi, tu vas changer de vitesse. Tu vas changer d'intensité, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu retournes ou pas, etc. Tu vois. Donc, tous les jours, on fait ça.
On fait des petites apnées, des petites suspensions, des petites immobilités de cage thoracique, même si on n'en a pas forcément conscience.
Alors, est-ce que c'est ça la proprioception ou l'observation première, basique de la proprioception?
Oui, c'est l'écoute des perceptions qu'on a en permanence, en fait. C'est porter attention. Pour moi, le mot attention est très important. C'est porter attention à tout ce qui se produit. C'est-à-dire, en tant qu'actrice, pour moi, c'est fondamental. Parce que du coup, je suis à tout moment à l'écoute des informations qui m'arrivent, des informations de tension, de détente, de schéma corporel, d'état dans l'espace, etc. Je peux continuer ce que je suis en train de faire en connaissance de cause. Voilà. Pour moi, quand même, la proprioception, c'est le siège de l'imagination. C'est-à-dire que je suis capable. J'espère être capable, à tout moment, quoi qu'il arrive, de m'en nourrir et de le redonner. J'ai trouvé un aphorisme anglais que j'aime beaucoup, qui est « informance, transformance, performance ». Comment, si je parle de l'objet, par exemple, comment l'objet m'informe, comment m'informer, il va me transformer intérieurement, et comment me transformant, ça devient performance. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller se creuser la tête à dire « qu'est-ce que je vais raconter ?» Ça raconte déjà.
Donc ça joue.
Ça se joue déjà. Tout de suite, oui. Donc, s'il y a ce que tu disais, le vide, le creux, etc., si j'ai une qualité, ça serait celle-là. C'est ça qui nourrirait ça, tu vois. C'est la qualité d'être là, d'être là, sur le moment, à l'écoute de ce que je suis en train de faire, à l'écoute de où sont les autres. Comment est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils sont silencieux? Est-ce qu'ils sont en apnée? Est-ce qu'ils sont en train de se détendre? Est-ce que je peux les retendre à nouveau, etc. Il y a tout un jeu tonique entre le spectateur et moi, et puis moi en train de faire ce que je suis en train de faire, en train d'être toujours à l'écoute aussi, en train de guider est-ce que je suis bien dans ma partition, tiens, je trouve un nouveau truc, là, je vais le faire, etc. Tu vois, c'est quelque chose de très vivant. En fait, pas... C'est jouer avec, c'est jouer des jouets en permanence avec sa partition, en fait, en fonction de faire au mieux. Je fais de mon mieux. Je fais pas le maximum. Je suis pas dans le sport. Je fais de mon mieux dans l'instant.
Donc je réinvente aussi un rapport au corps. Quand tu dis je suis pas dans le sport, c'est très intéressant. Ça aurait pu être un des sujets de notre échange parce que à quelques semaines des Jeux Olympiques, en fait, je voulais te demander d'ailleurs globalement, mais ça c'est j'ai plein de questions à te poser en fait. C'est est-ce que l'image du corps a vraiment changé par exemple en 50 ans? Parce que le théâtre du mouvement, ton travail permet aussi d'ouvrir plein de portes à qu'est-ce que au ressenti, à la proprioception. De retrouver aussi de la part d'animalité. Je crois que vous avez commencé un peu comme ça. Je voulais te faire parler des mutants. Mais il y a eu plein de spectacles qui ont cherché à comment jouer d'une certaine vitalité qui est plutôt confisquée, enfin, qu'il faut retrouver en tout cas, qui est accessible mais pas culturellement.
Je crois que quand on a commencé, en fait, intuitivement, on n'avait pas envie d'un corps unique. C'est-à-dire, avant les mutants, on a fait d'autres pièces. Et après les mutants, on en a fait d'autres. C'est-à-dire, juste après les mutants, qui était une pièce plutôt animale, organique, rythmique, voilà. On a fait une pièce, on a fait la pièce avec le déplacement des masques sur le corps. Donc, c'était une pièce segmentée, articulés avec des chimères dans nos corps, etc. Donc après ça on a fait une pièce sur la musicalité du mouvement avec équilibre instable. Après tu vois, donc d'abord on voulait pas être enfermé dans une seule esthétique, on changeait l'esthétique, on changeait le vocabulaire, on changeait même le type dramaturgique à chaque fois. Et on voulait pas se laisser enfermer dans une seule esthétique, dans un corps unique. Le sport, il est dans une image unique qui est socio-économique et qui est de la rentabilité, etc. Donc, c'est pas ça moi qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'ouvrir des portes, des portes sensibles à d'autres corps, à des corps qui sont peut-être bord-cadre ou Je rigole toujours avec mes étudiants et je leur dis toujours d'aller en bordurie, au bord des choses, voilà, au bord, aux lisières. Parce que c'est là qu'on trouve des choses. Alors, la bordurie, je me suis rappelé après coup que c'était les méchants dans le sceptre d'Ottokar. La bordurie, le pays de bordurie. Bon, voilà. Mais voilà, je leur dis, c'est aller au bord des choses. Mais bien sûr, on y va au bord des choses dans le sport. Mais l'objectif n'est pas le même.
Parce qu'il est dans la performance ou parce que justement, il y a une image un peu... Enfin, de toute façon, tu dis que bouger, c'est penser. Penser, c'est bouger. Donc, en fait, si on n'a qu'une seule façon d'envisager le corps et qu'on le restreint, on est proche de la pensée unique. On peut dire ça. Le corps sportif, il est vendu pour... en tant que tel, pas en tant qu'épanouissement global
C'est pour l'élite, c'est pas le sport
dans la compétition.
Pour tous. Voilà, c'est la compétition. C'est... Le professeur d'éducation physique en moi qui rouspète par rapport au sport.
Tout à fait.
Ouais. Parce que j'ai appris à être un professeur d'éducation, pas un prof de sport. Faut faire la différence entre les deux.
C'est-à-dire, à ton époque, c'était professeur d'éducation physique, et aujourd'hui et
maintenant, tout le monde dit prof de sport. Il y a un dévoiement des mots.
Et du coup, je ramène ça à mon domaine de compétences, qui est avant tout la musique. C'est vrai que nous, dans les conservatoires supérieurs, au sup, etc., on est sur cet entraînement du sportif d'élite, que ce soit... corporel ou que avec la répétition des gammes des morceaux, on travaille 8 heures par jour sur des positions qui sont pas forcément organiques à la base, et un entraînement mental aussi. pour les compétitions, les auditions, etc. Et je me suis rendu compte de plus en plus, mais aussi surtout par mon propre parcours personnel, mais après avec tous les étudiants que j'ai pu rencontrer, que ce qui manque beaucoup en fait, c'est ce retour au corps, de effectivement de sensible, de revenir à l'écoute des appuis, à l'écoute de la posture, à l'écoute de la respiration, à l'écoute de la résonance du corps, plutôt que d'être sur juste une intellectualisation de la musique et de ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, quitte à prendre des médicaments pour réussir à monter sur scène. Voilà, donc revenir à l'écoute de cette résonance du corps pour réussir à rejoindre la musique et l'émotion plutôt que d'être dans la performance sportive.
Ce qu'il faut, c'est un peu les choses, c'est que le mot performance, on dit performance sportive, mais on dit performance pour dire spectacle en anglais. Performance. Donc là, il y a une ambiguïté aussi qui fait que on associe les deux. Tout performe, c'est juste.
Tout performe.
C'est jouer. Nous, on joue, eux, ils performent.
Oui, donc le terme français de performance, d'être dans les performances, les starting blocks et tout ça, c'est un peu. C'est autre chose.
Autre chose, ouais.
Et oui, c'est scandaleux. Je pense qu'il y a énormément d'enfants qui sont brisés, qui chanteront pas, qui joueront pas d'un instrument parce qu'on les a mis dans du track.
Ou même à des très hauts niveaux, qu'il y a des gens qui arrêtent.
Ah oui,
parce qu'ils ont été
aussi
complètement brisés, et mentalement et physiquement. Ouais.
Sauf te pousse, fera ou se voit vers. Ou se voit, c'est vers plus. Fera sous, fera un pote vers six doigts. C'est vers sous, voit. Fera un putain, ou se voit, plus fera sous. Ou se fera vers si. Souffre, plus fera si, si, vers moi, soit plus vers. Soif, si, plus, voit, plus, voit, tout soif. Souffle, plus, vers fils, soif.
D'Étienne de Croux, il faut être loin et prêt à la fois. Tu me confirmes, Claire, que c'est d'Étienne de Croux?
Oui, c'est d'Étienne de Croux. Tu veux l'explication?
Oui, je veux bien.
On avait monté un duo avec Yves Marc, qui s'appelait Variation pour un homme et une femme. Et on avait des séquences assez lyriques de la relation d'un homme et d'une femme. Un duo un peu à la De Croux, si tu veux. Et on l'a joué devant Étienne De Croux et sa femme, Suzanne, à Tizac, dans une salle de classe. Et après avoir vu ça, il nous a remercié, bien sûr. Et puis il a dit à élève, il faut être loin et prêt à la fois. Ça voulait dire que dans le duo, on était trop près. Ou en tout cas, ce qu'on montrait pour lui était quelque part trop charnel. Ou qui renvoyait trop au rythme de la relation sexuelle, peut-être. En tout cas...
Trop votre histoire, je veux dire, en fait.
Oui, c'était... Oui, peut-être. Mais en même temps, on n'était pas du tout narratif, ni... Tu vois, c'était... Il y a des gens qui voyaient ça et disaient c'est de la danse, tu vois. En fait, il faut être dans une proximité des corps, mais sans se regarder, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut être ensemble à regarder une même chose à l'extérieur, au loin, sans avoir besoin de regarder l'autre. C'est-à-dire de ne pas redoubler le regard et le toucher. Voilà. Donc on peut être prêt par le toucher, mais sans se regarder. Le regarder sans faire, faire sans regarder.
Mmh.
Bah, il faut être... Pour lui, la poésie, elle vient de ça. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si l'autre est dans ta pensée. Voilà. Tu es à côté de lui, mais il est dans tes pensées, en fait. Tu le regardes pas concrètement. Voilà. Et tu, joues par rapport à ça, quoi. Voilà.
C'est aussi sentir l'autre, c'est pas forcément le voir, voilà. C'est le sentir.
Mmh. Ou le regarder.
Mmh. Mmh. Mmh.
La pensée du mouvement nourrissait le mouvement de la pensée et inversement. Je retrouvais ainsi mon interrogation sur le comment, plutôt que sur le pourquoi, et cela résonnait avec l'expression d'Étienne de Crous, « Tout est dans la manière ».
Ça, c'est une citation de toi, Claire mmh. Egan, mmh. Que je développe un peu parce que « Tout est dans la manière », ça... On peut le retrouver dans « Paroles sur le mime », donc, oui. D'Étienne de Crous. Oui. Et il écrit juste avant « Un art suppose une analyse, une décomposition, une recomposition. Comme en chimie, tout est dans la manière. »
C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne racontait pas des histoires. L'objectif n'était pas une narration. Mais la manière de faire mouvement, de mettre le corps en mouvement, faisait apparaître des images qui, à un moment donné, peuvent donner quelque chose de l'ordre d'un figuratif ou d'un narratif, mais le spectateur n'est pas obligé de suivre une narration.
Mmh.
C'est plutôt un corps poétique, en fait, qui apparaît.
Mmh.
Voilà. C'est pas le pourquoi, c'est-à-dire, c'est pas... Il n'y a pas une dimension psychologique, c'est un travail sur le corps et le mouvement. Et la manière de faire fait que ça prend du sens pour celui qui le fait et pour celui qui regarde.
Et c'est selon la traduction qu'il y a dans le livre, donc le très beau livre qui a été publié sur le théâtre du mouvement pour vos 40 ans, en 2016 donc, dans le cadre aussi d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France. Un très beau livre, voilà, dans l'affiche de l'émission. Je donnerai le lien hein, pour se le procurer, qui s'appelle donc Théâtre du mouvement, qui a été réalisé enfin publié aux éditions Deuxième Époque Domaine Théâtre. Et vraiment un livre, alors c'est un pavé, on peut dire.
Oui, il y a beaucoup de feuilles.
Il est gros.
Pages, il est très lourd.
Et il y a beaucoup de photos et il est très documenté. C'est à la fois des interviews, à la fois des réflexions, des grilles de travail. C'est passionnant ce livre. C'est pas un livre qu'on lit de A à Z, enfin de façon linéaire. C'est un livre dans lequel on va piocher. Et dans ce livre, donc, tu cites Antonio Machado. Mm. Ton chemin, voyageurs, se sont effoulés et rien de plus. Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Mmh. Et puis une dernière citation. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté que tu as dit pendant le débat au mois de mars dans au Mouffetard, où donc était présenté un inventaire animé. Après, il y avait des jeunes du conservatoire, il y avait enfin du monde qui restait dans la salle pour un débat. Et à un moment donné, tu as dit, et ça m'a fait un ouf. Bon, pour plusieurs raisons, parce que la grenade, c'est quelque chose de très symbolique pour moi, le fruit. Hein, c'est très intéressant d'ailleurs, la grenade, le fruit. Hein. Et c'est vrai que dans le climat actuel de guerre et d'explosion, de langage aussi, de. Trop guerrier politiquement, on est toujours en train de lutter, guerre et tout ça, et tout d'un coup Claire Hagen dit « Il ne faut pas dégoupiller la grenade trop tôt, trop vite ». Tu peux encore le commenter un peu, et tu parlais de l'émotion en fait, hein. Et ça rejoint les autres citations, c'est-à-dire que l'acteur ne montre pas forcément quelque chose de tout à fait privé ou personnel, il y a toujours une distance, et l'idée c'est de ne pas dégoupiller la grenade trop tôt.
Oui, et je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'aphorismes de tout coup, mais où moi j'ai fait justement par rapport à ce spectacle de l'inventaire animé, j'ai constitué moi-même mon stock d'aphorismes, et je me rends compte que y en a beaucoup qui sont finalement avec des sens plus ou moins cachés que j'imaginais pas. Et là, tu m'en fais découvrir un que je n'avais pas réalisé par rapport à la guerre, en fait. Mmh. Et effectivement, il ne faut pas découper, il ne faut pas déclarer la guerre trop tôt.
Ou la rébellion, hein, parce que la grenade, ouais. C'est aussi résister, ouais. Se rebeller ou prendre... Oui, effectivement.
Non, mais je crois que je dis ça plutôt dans l'idée de... Il faut être dans l'imprévisibilité pour le spectateur. Il faut jouer avec les nerfs du spectateur. Il ne faut pas lui donner la solution trop tôt ou trop vite. Il faut retenir le cheval pour qu'au moment où ça explose, c'est le bon moment. Quoi. Voilà.
Oui, l'émotion est aussi dans tout un processus de... Elle est minimale, enfin. Oui. Elle est à retirer
oui,
encore.
Oui. Ouais.
Je pense à...
Et de Croo, il dit épurer.
Voilà.
Mmh. Épurer toujours et ensuite agrandir, si c'est nécessaire.
Mmh. Amplifier.
Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport à de Croo, il y a quelque chose de l'essentiel à trouver. Quelque chose des fondations et du fond, des fondements, des fondamentaux de l'art d'acteur, en fait. En fait. On allait là-bas, on allait chez lui pour apprendre l'art d'acteur, de l'acteur corporel. Mmh. Donc c'est quelque part une anthropologie théâtrale, les fondamentaux d'une anthropologie théâtrale qu'il essentialisait à tout le temps, quoi, avec exigence.
Quand tu dis essentialiser,
C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, épurer. Mmh. C'est-à-dire trouver la chose juste au bon endroit, au bon moment, au bon endroit dans le corps, dans l'organicité et organisation du corps, dans sa dynamique, dans son espace, dans son orientation, dans sa relation à l'autre objet ou l'autre personne. Voilà. Mmh. Ou les autres.
Et dans le très beau livre que je viens de citer, tu dis d'ailleurs que c'est quand même un infatigable travailleur de l'incertitude, de remettre les choses en question, du doute. Mmh.
100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage.
Voilà.
C'est ça. C'est oui. Mais de Croo, il n'arrêtait pas. Hein. Il était tout le temps en train d'approfondir, de préciser, de se poser des questions, d'améliorer, d'aller au fond des choses. Hein. Mais je crois que ça, c'est une maladie qui nous a transmise. Hein. Je veux dire, que je peux reconnaître dans l'exigence d'Elsa aussi, dans son travail. Mmh. Hein, c'est-à-dire, on a envie d'aller dans la justesse, dans l'essentiel. Et voilà. Et pour arriver à des images qui sont aiguës, qui vont toucher, qui vont... Il n'y a pas de baratin autour, il n'y a pas de gesticulation. Mmh. Pour trouver le mouvement, le geste précis, la précision. Donc voilà. Et du coup, aussi les nuances. Du coup, la précision des nuances. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, on n'est pas dans un corps global, on est sur de la multiplicité de corps, mmh. sur du corps local, où toute partie du corps est actrice. C'est pas juste un corps avec une tête au-dessus, avec un acteur qui est juste un porte-voix ou un porte-texte, mais on est une globalité, mais faite de tas de localités, hein. C'est un peu comme un territoire. Il y a la France, puis il y a les départements, puis il y a les petits villages, puis les hameaux, etc. Mais dans le corps, c'est pareil.
Donc on peut parler de métissage, d'hybridité, de différence, enfin de variété, c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas une seule...
Oui, on est plusieurs personnes.
On est plusieurs personnes.
On est plusieurs personnes. On est tout le temps en train d'être des personnes différentes dans la société, en fonction du rôle qu'on a à jouer, en fonction de ce qu'on attend de vous, en fonction... Enfin, voilà, on a des personnalités multiples. À côté de ça, par rapport au travail de De Croo, par rapport au système de De Croo, quelque part, moi, tous les corps que j'ai traversés, toutes les esthétiques que j'ai pu aborder ou qui m'ont traversé, elles se sont mélangées, elles se sont nourries les unes les autres. Donc je peux pas dire que ce que je fais en scène, c'est du De Croo, c'est en tout cas pas l'esthétique de De Croo. Mais c'est nourri essentiellement des fondamentaux de l'anthropologie théâtrale, du mime corporel, en fait. Voilà. Mmh.
Qui est pour toi... Parce qu'en fait, cette diversité-là... en fait, c'est un peu comme la musique... Alors peut-être, Elsa, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais en fait, je trouve que le théâtre du mouvement, il a été un peu... Enfin, c'est ce que je découvre avec Claire, parce que souvent, on vous associe au mime corporel dramatique. Mmh. Mais en fait, t'as eu beaucoup, beaucoup d'autres influences, et t'as fait un peu comme les musiques du monde fusionnées Non, je sais pas si c'est une image qui te parle... qui te parle, Elsa, mais c'est vrai que il y a d'autres personnes qui ont poursuivi le travail de De Croo en gardant son esthétique, alors qu'en fait le théâtre du mouvement est resté en mouvement et en transformation et en métamorphose et a été se nourrir de plein d'autres choses avec la même exigence du mime corporel, mais pas en gardant une esthétique. Voilà, une esthétique qui était quand même liée déjà à une révolution un peu artistique qui s'est vue dans plein de domaines, dans la peinture, dans la musique. De Croo, il est d'une époque où on a remis beaucoup de choses en question.
Ouais.
Il est un peu le disciple, ou je sais pas, peut-être ils se sont rencontrés d'ailleurs, d'Edgar Gordon Craig.
Alors,
Edouard.
Et Edouard, oui.
Qui a quand même remis le texte à sa place dans le théâtre et le corps de l'acteur au centre de la scène, et etc.
Plus... Alors, De Croo, en fait, il a suivi... il est allé suivre les cours du Vieux Colombier. Mm-hmm. Donc, chez Jacques Copeau. et où il a travaillé entre autres, et il en parle d'ailleurs dans Paroles sur le mime, avec Suzanne Bing. Et on va revenir à l'idée de musicalité là. Suzanne Bing, qui était musicienne, c'est elle qui a essentiellement fondé l'école du Vieux-Colombier et la formation des étudiants au niveau musical et des partitions gestuelles musicales. Donc ça, c'était chez Copeau. Edward Gordon Craig était un d'une génération un peu avant, et il prônait le fait que l'acteur devait être une marionnette idéale, en fait. Que l'acteur devait montrer son art sans montrer sa personne. Et c'est là, en cela, que Ducrot rejoignait Craig. Craig a visité l'école de Copeau. Et Copeau était allé voir aussi en Italie l'école de Craig. Donc là, il y a toute cette dimension de fin 19e, début 20e. Là, c'était des révolutions au niveau des acteurs, au niveau des recherches, même au niveau des pratiques somatiques et tout ça.
Le ciel était si bas, à portée de tes bras. Tu l'as décidé ainsi, tu as réussi. Le plafond, les murs, ma chaise et moi, on est tous là. Sans voix, cher ami. Après la pluie, la nuit. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. À trop se demander pourquoi, on ne sait plus comment. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je n'ai pas vu que le ciel était si bas, à portée de tes bras. Cher ami, tu as fui après la pluie, la nuit. Que d'eau ce soir-là. Juste un pas de haut en bas. Aujourd'hui le ciel semble si haut. Si haut que je n'ose pas élever la voix. Cher ami, tu as fui après la pluie, la nuit. Il faisait si beau, toi aussi. Il faisait très chaud. Toi, pas. On a beau dire rien.
Cette première partie de cet échange avec Claire Egan et Elsa Markel-Liénard touche déjà à sa fin. Comment plutôt que pourquoi, loin et près à la fois. Et je vous donne rendez-vous pour une seconde partie qui probablement, elle, va s'intituler « Jouer, déjouer, rejouer ». Et l'inventaire animé, une des dernières créations du Théâtre du Mouvement, une conférence mouvementée que nous allons évoquer, dont nous allons parler. Donc rendez-vous pour la deuxième partie. Merci infiniment à Claire et Elsa. À l'oreille, vous avez entendu des extraits de Encore une heure si courte, création de 1989 du Théâtre du Mouvement, qui était une rencontre avec le compositeur Georges Aperghis. Vous avez entendu Antonin Gerbal, qui est un batteur assez exceptionnel êtes dans un extrait de Connect, vous avez entendu un extrait de La construction du monde de Georges Apergis, et puis de La flûte d'Elsa Markel-Liénard, et enfin une chanson de Michel Museau, qui a été longtemps un compositeur pour le théâtre du mouvement, et qui est là interprète Cher ami, une chanson qui est extraite de son album Petite histoire noire. Mais pour aller plus loin, vous pouvez, et évidemment, je vous invite à aller consulter la fiche de l'émission. Il y aura beaucoup de liens pour aller plus loin. À très vite.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.